Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre à quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Madame Gaëlle Kibungu, elle est journaliste politique à Univers TV, une télévision qui émet de Kinshasa. Bonjour Madame. Madame Gaëlle Kibungu.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à mes co-débatteurs.
Maître Dominique Kambala, il est membre de la société civile du Kasaï Central et ancien bâtonnier du barreau de cette province. Et il est rapporteur de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation dans cette même province. Et il est également directeur général de l'ONGD dénommée Société Congolaise pour l'État des Droits, SCD en sigle. Bonjour, Maître Dominique Kambala.
Bonjour Radio Okapi, j'en profite pour saluer le co-débatteur, Madame Gaëlle et le professeur.
Et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, professeur Pierre Virgence, il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. Bonjour professeur Pierre Virgence.
Bonjour, et alors à Butembo, je précise que c'est bien à l'université catholique du Graben puisqu'il y a plusieurs universités à Butembo.
Merci beaucoup pour la précision. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Connaissez-vous la monkeypox? C'est une maladie virale contagieuse qui se transmet principalement par contact direct de l'animal trouvé mort ou malade avec ou sans signe de monkeypox à la personne non malade. Entre les hommes, la transmission de la monkeypox s'est faite à travers des lésions, voire plaies de liquide organique comme la sueur, des gouttelettes respiratoires, des objets souillés par des malades de monkeypox et le rapport sexuel avec une personne malade de monkeypox. Pour nous protéger contre la monkeypox, il faut éviter de toucher les animaux malades ou trouver morts sans cause, éviter tout contact physique ou sexuel avec une personne malade de monkeypox et éviter tout contact avec les objets souillés par des malades de monkeypox.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler gratuitement au 151 ou adressez-vous directement à un prestataire de santé ou à un agent de santé communautaire.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Madame Gaëlle Kibungu, elle est journaliste politique à Univers TV, une télévision qui émet de Kinshasa. Maître Dominique Kambala, membre de la société civile du Kasaï Central et ancien bâtonnier du barreau de cette province. Il est rapporteur de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation dans cette même province. Il est également directeur général de l'ONGD dénommée Société Congolaise pour l'État des Droits. Et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, professeur Pierre Virgence, il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. Au menu de cette émission, le gouvernement belge dénonce la condamnation à la peine de mort de Jean-Jacques Rondo, un Congolais naturalisé belge. La réaction du gouvernement belge implique-t-elle un changement significatif dans les relations entre la RDC et la Belgique, ou c'est une péripétie qui sera vite oubliée? Des réformes judiciaires en RDC et enfin, paupérisation de la population congolaise et une bombe à retardement pour la RDC. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire à l'occasion de la journée internationale dédiée à la paix ce samedi 21 septembre. En effet, la journée internationale de la paix est célébrée chaque année le 21 septembre. Il est dédié à la paix et particulièrement à l'absence de guerre qui doit se manifester par un cessez-le-feu dans les zones de combat. Il est observé dans de nombreux pays depuis sa création en 1981. Depuis 2022, cette journée commence au siège des Nations Unies à New York par une cérémonie en présence du secrétaire général qui fait sonner la cloche de la paix fabriquée à partir des pièces de monnaie données par des enfants de tous les continents. C'est un don de l'association japonaise pour l'ONU et ses vœux un rappel de ce que la guerre a coûté à l'humanité. Elle porte cette mention « Longue vie à la paix dans le monde ». Madame Gaëlle Kibungu, Et que peut signifier la célébration de cette journée dans un pays en guerre comme la RDC?
Ben je pense qu'il est essentiel de célébrer ce genre d'événement, de toujours se rappeler que nous devons favoriser un climat de paix, autant en RDC que dans tous les coins de la planète. Mais ce qui est le plus important encore, c'est surtout de préserver cette paix au préalable. Ça veut dire que autant il est important d'instituer ce genre de moment commémoratif, autant il est important d'instaurer une paix véritable à travers des politiques justes pour tout le monde et notamment interpeller les grandes nations et les multinationales à mettre de côté leurs intérêts égoïstes, leurs intérêts économiques, parce que c'est vraiment ça qui est principalement à la base de toutes ces grandes guerres à travers le monde et surtout en Afrique. C'est le cas en RDC où nos minerais sont pratiquement la base de ces guerres injustes. Donc autant il faut célébrer la paix un jour, autant il faut l'instaurer véritablement et durablement à travers tous les coins de la République par des politiques justes. Et surtout, il faudrait sanctionner aujourd'hui les Nations Unies qui instaurent ce genre de journée commémorative, doivent peser de leur poids pour que les sanctions soient données à l'endroit de tous ceux qui commettent des crimes contre l'humanité pour dissuader en fait. Ce n'est pas assez dissuasif. Autant on célèbre les journées commémoratives, autant aujourd'hui on a encore des multiplications de guerres à travers le monde et je crois que c'est une politique injuste. Il faudrait vraiment avoir des mesures dissuasives, des politiques dissuasives pour que les crimes de guerre, par exemple, soient vraiment une chose oubliée et qu'on arrive à une paix instaurée véritablement à travers tous les coins de la République et particulièrement dans ce cas, je pense à notre pays, la République démocratique du Congo.
Merci, Maître Dominique Kamala. La RDC est affectée depuis plus de 2 décennies par des guerres cycliques dans sa partie orientale. Et il y a aussi depuis quelques années l'Ouest qui est touché par la guerre des Mobondo. Et quand vous observez toutes les approches qui sont initiées, n'est-ce pas, aussi bien au pays qu'à l'extérieur du pays, pour restaurer la paix, qu'est-ce que vous vous dites? Faut-il être fataliste ou on peut espérer, n'est-ce pas, à un possible rétablissement de la paix dans un avenir proche?
Je suis tout à fait d'accord. On peut espérer à un possible rétablissement de la paix, mais à condition. Mais avant de donner cette condition, il me semble que cette occasion, cette commémoration permet de rappeler que la constitution de la RDC garantit à tous les Congolais les droits collectifs. Ceux-ci sont consacrés par la constitution dans ses articles 50 à 53 et parmi les droits figurent le droit à la paix et le droit à la sécurité tant sur le plan national qu'international. Alors l'État congolais est rappelé de son obligation de protéger les droits et les intérêts légitimes des populations. Mais malheureusement, il se constate un écart entre les discours politiques qui traduisent la volonté de garantir la paix, de mettre fin à la guerre et la situation sur le terrain. Donc ici, nous voulons rappeler un adage latin, si vici patem parabello. Donc, pour rétablir la paix, il faut se préparer à la guerre. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse avoir une armée professionnelle, bien équipée, bien appuyée, afin de faire face à la guerre. Parce qu'on va continuer à pleurer, on va continuer à faire des discours, des incantations. Moi, je pense que pour établir la paix, il faut absolument bien préparer à la guerre, c'est-à-dire avoir une armée puissante. Mais je termine en disant qu'il y a une autre guerre dont on ne parle pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paix sans pain. Or, l'autre partie de la République est en guerre. Cette guerre se manifeste par la précarité des populations, par la misère inqualifiable et aussi par la pauvreté. Donc, il faut à la fois taire les armes et il faut aussi à la fois donner du pain.
Merci, professeur Pierre Virgence. La commémoration d'une telle journée ne serait-elle pas une occasion pour la communauté internationale de réfléchir sur les moyens de pérenniser la paix dans les zones du monde où il n'y a pas de guerre et aussi d'identifier les causes des différents conflits pour voir comment y mettre fin dans les pays où se vit la guerre?
Oui, tout à fait. Ça devrait être une occasion de réflexion. Hein. Donc, comme les interlocuteurs précédents, je pense qu'il faut garder l'espoir à moyen et long terme. Mais à court terme, effectivement, on a plus l'impression que ce genre de célébration est un peu un hommage du vice à la vertu, parce qu'on sait qu'il y a des grandes multinationales qui profitent de la situation de guerre à l'est du Congo pour pouvoir piller, je dirais, sans aucune règle, le sous-sol du Congo. Et donc, effectivement, à la fois, il faut s'en servir pour dire, pour conscientiser les jeunes générations et pour espérer que ça change. Et en même temps, il ne faut pas trop se faire d'illusions sur la façon dont les pouvoirs politiques dans les grandes puissances sont incapables, en fait, de contrôler les multinationales.
Merci, on prend une petite pause avec Kafoul Mayaï du Seigneur Taboulé et on revient juste après. C'était Kafoul Mayaï à travers cette chanson. Taboulay relate la situation d'une femme victime de violences de la part de son mari. Comme on le sait, les violences conjugales, c'est parmi les facteurs qui perturbent la paix dans les foyers. Et nous pensons qu'il faut aussi y penser ce 21 septembre, jour où le monde célèbre la journée de la paix. Rochero Taboulay n'est plus avec nous. Il nous a quittés depuis le 30 novembre 2013. Paix à son âme. On revient à l'actualité de cette semaine. La ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a exprimé dimanche 15 septembre sa vive inquiétude à la suite du verdict prononcé par un tribunal militaire congolais contre l'expert militaire Jean-Jacques Wondo, naturalisé belge. La chef de la diplomatie belge s'est exprimée au cours d'un entretien téléphonique qu'elle a eu avec son homologue de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner. J'ai insisté sur l'opposition absolue de la Belgique à la peine de mort. Les droits à la défense doivent être respectés, a écrit Hadja Lahbib sur son compte Twitter. Le tribunal militaire de Kinshasa a rendu son verdict vendredi 13 septembre dans le procès de la tentative de coup d'État que l'armée avait annoncé avoir déjoué le 19 mai dernier. Sur les 51 prévenus, 37 ont été condamnés à la peine capitale, tandis que 14 ont été acquittés. L'expert militaire Jean-Jacques Wondo, considéré par le tribunal comme le concepteur et auteur intellectuel de la tentative de coup d'État, fait partie des condamnés. Les prévenus ont été reconnus coupables d'association des malfaiteurs, d'attentats et de terrorisme. Professeur Pierre Vergence, vous êtes politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Boutembe en RDC. Vous avez voulu nous parler, n'est-ce pas, de la réaction du gouvernement belge à la condamnation à la peine de mort de Jean-Jacques Wondo, un Congolais naturalisé belge, en vous posant la question de savoir si cette réaction implique un changement significatif dans les relations entre la RDC et la Belgique, ou c'est juste une péripétie qui sera vite oubliée. On vous écoute.
Bien, merci de m'avoir donné la parole. Effectivement, je pense que la condamnation de Jean-Jacques Wondo s'est faite dans des conditions tout à fait critiquables. Hein. Il y a de longs articles dans la presse internationale, dans le journal Le Monde de Paris, et évidemment dans les journaux belges qui suivent de près l'actualité congolaise. Donc c'est important quand même de savoir que ce que le pouvoir congolais vient de faire, c'est considéré comme un acte de non-droit, en fait, puisque d'abord, on sait que les conditions dans lesquelles le procès s'est tenu ne respectaient pas la procédure judiciaire normale. Et là, je fais appel à mon co-débattant sur l'état de droit hein, en République démocratique du Congo. Effectivement, quand un juge interrompt une séance et puis revient après avec le délibéré sans avoir entendu l'ensemble des parties, ça pose un véritable problème. Alors, d'autre part aussi, il ne faut pas oublier que le moratoire pris par Joseph Kabila en 2003 sur l'arrêt des peines de mort au Congo, eh bien en fait il a été consolidé complètement par la constitution congolaise approuvée en 2006 et approuvée par référendum en décembre 2005, et en deux articles, l'article 16 et l'article 61, cette constitution précise bien que l'État de la République démocratique du Congo respecte le droit à la vie de chaque citoyen, quelles que soient les circonstances, et donc c'est énuméré de façon précise dans les deux cas, et même en cas d'état de siège ou de guerre, l'État doit respecter le droit à la vie de ses citoyens. Donc une condamnation à mort dans des conditions où la peine de mort a été dite, rendue possible, alors que la Constitution l'interdit, c'est tout à fait bizarre sur le plan de l'argument juridique, et on voit effectivement que sur le plan factuel, alors, toute une série de gens qui étaient accusés étaient dans une situation d'impossibilité de se défendre concrètement, et donc beaucoup de gens pensent que, et pas seulement le gouvernement belge, hein, que le pouvoir congolais a été trop loin dans ses volontés d'intimidation, et donc il y a eu non seulement un coup de téléphone entre les deux ministres des Affaires étrangères, il y a eu également une convocation de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au ministère des Affaires étrangères en Belgique, et cette convocation d'ambassadeur est un geste rare, en fait, un geste qui montre que la situation n'est vraiment pas bonne, et donc on ne sait pas si, à partir de là, ça veut dire que la politique belge va considérer que le pouvoir de Tshisekedi, après, j'ai envie de dire, les massacres de Makala et ce jugement à l'emporte-pièce, on ne sait pas dire si le gouvernement belge en a vraiment marre des exagérations du gouvernement de Tshisekedi et s'il va passer à l'action, ou bien si le gouvernement de Tshisekedi va profiter de ce coup de semonce pour corriger sa manière de gouverner le Congo. On peut espérer effectivement que le gouvernement de Tshisekedi s'adoucisse et qu'il intervienne moins dans le monde judiciaire et qu'il respecte un peu plus le système juridique auquel la République démocratique du Congo souscrit. Donc voilà quelques éléments de réflexion, parce que je pense qu'on ne peut pas laisser passer ça sous silence. On a même soupçonné en Belgique au départ que l'arrestation au mois de mai de Jean-Jacques Wando n'a pas été condamnée suffisamment fort par les autorités belges, peut-être parce que c'est un Belge d'origine congolaise. Et certains disaient il s'agit peut-être d'une sous-estimation du danger que vivent les gens qui ont une double nationalité au Congo, et que effectivement il faut protéger tous les citoyens belges, quelle que soit leur origine au départ.
Oui, professeur, on a senti les temps élevés, n'est-ce pas, les temps durs qu'a utilisé le gouvernement belge pour dénoncer ces verdicts. À votre avis, jusqu'où la Belgique pourrait-elle aller, quand on sait que c'est une condamnation au premier degré, les avocats de la défense ayant, n'est-ce pas, annoncé leur intention de faire appel, donc les dés ne sont pas jetés. Vous pensez que la Belgique peut aller jusqu'à créer des problèmes dans les relations entre elle et la RDC?
Mais tout dépendra évidemment, comme vous le dites, de la réaction du partenaire en face de la Belgique. Mais si le gouvernement au pouvoir à l'heure actuelle en RDC tient compte des remarques non seulement de la Belgique, mais aussi de l'Union européenne et de la France et des États-Unis, donc si le gouvernement en tient compte, ben, la Belgique pourra s'en tenir là. Mais si effectivement le gouvernement de Félix Tshisekedi n'en tient pas compte, il est possible qu'il y ait des actions qui continuent et qui soient plus dures, effectivement. Or là, il y a toute une série, toute une panoplie d'actions dans les relations bilatérales, en diplomatie, qui permettent d'intervenir et de faire plus ou moins de pression sur un État. On peut espérer que les pressions ne soient pas nécessaires et que le gouvernement de Tshisekedi entend de raison, parce que effectivement, il semble que dans la situation actuelle en Belgique, hein, n'oublions pas qu'on est en train de négocier pour former un gouvernement fédéral, et que donc les affaires étrangères sont évidemment dans les mains du gouvernement fédéral, et très probablement, très certainement, j'ai envie de dire, la réaction de l'actuel ministre des Affaires étrangères a été prise en accord avec les partis qui négocient le gouvernement fédéral, et donc c'est possible que ce soit une politique qui soit continuée à l'avenir. Parce qu'effectivement, on sait que dans les partis qui négocient, certains veulent être beaucoup plus durs avec le gouvernement de Félix Tshisekedi que ce que l'actuel Premier ministre en affaires courantes, Alexander De Croo, a été. C'est un homme de contact très facile, et donc il était plutôt avec des contacts sympathiques avec Félix Tshisekedi. Il est possible que les nouveaux partis veuillent aller plus durement et que l'attitude de l'actuel ministre des Affaires étrangères en affaires courantes signifie déjà que le futur gouvernement sera plus sévère avec la RDC et insiste plus pour qu'il y ait un respect de l'état de droit.
Merci Madame Gaëlle Kibungu, vous êtes journaliste politique à Univers TV, une télévision qui est belge de Kinshasa. Comment vous comprenez la réaction du gouvernement belge face à la condamnation à la peine capitale des prévenus, notamment de l'expert militaire Jean-Jacques Wando?
Voilà, moi je suis un peu en écoutant les réactions qui est là, assez choquée. C'est un avis tout à fait personnel que je partage en tant que citoyenne de la République démocratique du Congo. Un pays inscrit bien sûr dans le concert des nations avec des obligations de principe sur les droits humains et la justice, mais un pays souverain qui n'a pas toujours besoin de caporalisme ou de leçons données. Ça, c'est d'abord une chose. On n'est plus à l'époque du colonialisme, encore que là, il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes encore dans des débats qui prennent du temps. Ce n'est pas pour cracher sur les relations diplomatiques ou sur l'importance justement de ces relations entre le Royaume de Belgique et la RDC. C'est une longue histoire. Je n'approuve pas la peine de mort, ça c'est un fait, mais je pense quand même que c'est un processus auquel on devrait accorder temps et écoute, parce que les pays d'Europe et d'ailleurs ont eu leur temps d'abolition, et on a vu, on a été en tant qu'observateurs victimes aussi de tous ces processus-là. On sait ce qui a été fait. Et nous, par rapport à une situation un peu plus assez actuelle, il y a toutes ces violations de droits humains qui sont faites. Par exemple, les Congolais, même au sein de la diaspora, je ne parle pas seulement de la Belgique, parce qu'aujourd'hui, ça pourrait être la Belgique, le lendemain, ça pourrait être un autre pays. La RDC attend encore des réparations dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, c'est bien beau de crier aux donneurs de leçons en question de justice et de droits humains, mais la République démocratique du Congo attend encore qu'on paye le sang versé pour des millions et des millions de Congolais qui sont partis depuis une époque qui nous laisse encore des stigmates, cette époque qu'on appelle l'époque colonialiste, où il y avait des mains coupées. Je suis désolée de dire sur des épisodes aussi durs, mais c'est des épisodes traumatiques qu'on n'oubliera pas de sitôt. Et aujourd'hui encore, au travers des années, il y a tellement de violations, notamment même en matière de guerre, la guerre dont on parle dans l'Est du pays. J'aimerais avoir des prises de position plus pour ce genre de choses. Pas seulement des prises individuelles, des prises de position individuelles au profit de l'intérêt d'un compatriote belge, non, qui est d'ailleurs d'origine congolaise, ce que je trouve vraiment aberrant, alors que nous, on se bat pour la démocratie. On peut aujourd'hui défendre avec tous les mots possibles quelqu'un qui est venu orchestrer un coup d'État, qui a fait des victimes, qui a fait des morts. Je pense que quand même, à ce niveau-là, il faudrait mettre un peu un bémol à toute cette histoire, hein, parce que c'est vrai, les quoi contre nations, ça existe, il y a toujours des hauts et des bas dans les relations diplomatiques, mais je ne pense pas que c'est une bonne chose de faire ce genre de politique ou des réactions sur mesure. Ça serait dommage qu'on arrive à créer un grand malaise autour de cette histoire entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, qui ont une longue histoire, mais encore du chemin à parcourir. Et je pense qu'il faudrait éviter du chantage. J'ai l'impression d'entendre un préfet d'école face à son élève. Non, la République démocratique du Congo aujourd'hui est un pays stratégique. Au cœur de l'Afrique, ce n'est pas un secret, et la Belgique le sait très bien, pour avoir cette histoire avec nous. Donc il faudrait quand même à un moment donné que l'on puisse discuter en état responsable. C'est une question qui fâche, c'est une question sensible, mais il y a quand même des morts d'hommes, il y a quand même atteinte à la souveraineté d'un État. Donc il faudrait, je pense, mettre un peu de bémol à nos différents discours et ne pas tout le temps soumettre la République démocratique du Congo ou un dirigeant, parce que sa tête ne nous plaît plus vraiment, à une sorte de chantage. Donc privilégions les relations diplomatiques. Je crois que même pendant les guerres les plus sanglantes, il y a toujours dialogue. Je crois qu'il faut parler, il faut se parler, mais en état égaux devant la loi, parce que cette même loi qui garantit justement cette abolition de peine de mort, garantit aussi la souveraineté de chaque État et l'égalité de chacun d'entre eux. Donc, je crois que c'est mon avis là-dessus.
Merci, Maître Dominique Kambala. Vous êtes membre de la société civile du Kasaï Central et ancien bâtonnier du barreau de cette province. Vous êtes rapporteur de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation dans cette même province. Vous êtes également directeur général de l'ONGD, dénommée Société Congolaise pour l'État des Droits. Au-delà du fait que le gouvernement belge, n'est-ce pas, dénonce cette condamnation à mort et qui, selon elle, viole la constitution de la RDC qui stipule que la vie humaine est sacrée, est-ce que vous sentez un certain chantage dans les propos du gouvernement belge à l'endroit du gouvernement congolais et comme l'a relevé Mme Gaël Kibungu?
Bon, chantage, c'est peut-être possible, mais moi je voudrais focaliser mon commentaire sur le plan des principes. Sur le plan des principes, je ne voulais pas revenir sur ce que la Constitution dispose, mais vous l'avez rappelé, l'article 16, tout Congolais a droit à la vie, et la personne humaine est sacrée. Et nous prenons l'état de droit. On ne peut pas prôner les droits et travailler à l'encontre, agir à l'encontre de l'état de droit. Il me semble que la République démocratique du Congo est à partie à plusieurs instruments juridiques internationaux qui ont aboli la peine de mort. Donc ici, il s'agit d'être cohérent et logique. Donc le principe de base posé dans la Constitution, c'est que la République démocratique du Congo est un État de droit. Donc, un État de droit, c'est celui qui fait de la primauté de la norme juridique son cheval de bataille. Donc, on ne peut pas à la fois prôner un État de droit mais à la fois, on agit de manière paradoxale. Donc, il y a un problème, pour ma part, de la cohérence. Nous avons les dispositions constitutionnelles, nous avons les traités régulièrement et dûment ratifiés, à l'occurrence le traité de Rome. Alors, tous ces instruments juridiques internationaux abolissent, bannissent la peine de mort, et nous continuons. Donc, il y a une sorte de dichotomie, une sorte de paradoxe, dont nous devons, lorsque nous prenons l'état de droit, nous devons être logiques et cohérents.
Merci, chers auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Félix Oazekwa, chanteur, compositeur, producteur, chorégraphe et parolier, a fêté son anniversaire le 14 septembre dernier. À cette occasion, on va écouter une de ses compositions texto et on revient juste après.
Ah, Yashimi Edi Mustafa, Moza Pro Wea. Quel est le plus court chemin d'un cœur à un autre? Ma papa va télémi, ma maman tout fan d'atel. Le bébé quoi? Chaba pas son beau Shakira béton. Sendoki, Aristote Bongo.
Oh mi chéri, mon bébé, oh la la bien.
La coutine la ya texto liboso, kangamiso, oh la la bien. Yeshimi Mustafa,
God Maluma,
Aho. Pimi bolingo ye bayo, pimi peki miawa. Akuzala nangai kole la le la love na yo. Mon bébé, stimulant et amour na yo.
Non mais à lui. Madame Pachimoul.
Samotema, Yashimi Oza Bolingo, Mustafa, Yome Mangai, Motema, Yome Mangai, Tudani Kabala, Nabanda Kayona, Ao Komisinga Naze,
Josa Valesi,
Nabanda Yona Jeunesse, Yokomisinga Apocalypse, JP Masambo, Kondise Bonga, Ponani, vraiment Yossi.
Josiane a Tony Blair hors du commun, va les dribbler.
Ah mon qu'il y a mon diploma, le monde fou, le monde est fou. Je lui dis pas ton bobona et comme il m'a Robert Tona, j'y sais volter.
Le gouvernement, le monde est fou.
Ah mon qu'il y a mon diploma, le monde est fou, le monde est fou. Et si comme ta voix qui vilaye va se soubala l'inzala Ningi ningi kaka moto nemo gobo mamoninga na moto Na amote mesi na bomba machabola mufo de medo sanga Jilva si ma franci ve ma jake mo pa chico de pelami papi o kiso
Jilva pa grave
So kyo poya da di dario na yamba shimi ma moko ya kofo mwana
Radio Okapi Regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la célébration de la Journée internationale de la paix ce samedi 21 septembre. Nous avons également analysé la réaction du gouvernement belge à la condamnation à la peine de mort de Jean-Jacques Ondo, un Congolais naturalisé belge. participe à cette émission, Madame Gaëlle Kibungu, elle est journaliste et politique à Univers TV, une télévision qui émet de Kinshasa. Maître Dominique Kambala, membre de la société civile du Kassai Central et ancien bâtonnier du barreau de cette province. Il est rapporteur de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation dans cette même province. Il est également directeur général de l'ONGD dénommée Société Congolaise pour l'État des Droits. Et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, professeur Pierre Vergence, il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. Maître Dominique Kambala, vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler des réformes judiciaires en RDC. On vous écoute.
Voilà, Guimaté, comme vous le savez, depuis le début de son deuxième mandat, le chef de l'État a engagé la République dans les réformes judiciaires. Le ministre de la Justice s'est approprié de cette vision et l'a concrétisé par la transmission de quelques projets de loi au Parlement. Nous saluons quant à nous cette volonté politique, mais nous voudrions attirer l'attention des pouvoirs publics sur ce qui suit pour que les réformes judiciaires qui seront entreprises soient les meilleures réformes, parce que les réformes judiciaires dans ce pays, ce n'est pas la première fois. Nous avons toujours déjà entendu de ces réformes, mais il faut attirer l'attention des pouvoirs publics, notamment sur le point suivant. Le premier point, c'est la transparence. La transparence exige qu'il y ait une communication claire et ouverte sur les objectifs et les étapes de la réforme. Or, jusque-là, nous avons seulement entendu des discours sur la volonté d'engager les réformes, mais en termes de communication, il n'y a pas une communication claire et ouverte sur les objectifs de cette réforme. Qu'est-ce que ces réformes judiciaires visent et quelles en sont les étapes? Deuxième chose, nous voulions insister sur l'inclusivité des réformes. Il faut que les réformes qui sont envisagées puissent connaître la participation multiple des acteurs, le gouvernement, la société civile et tous les citoyens. Troisièmement, nous voudrions que les réformes qui seront envisagées, engagées, puissent tenir compte de ressources. Vous savez, depuis 2006, on a engagé la République dans la réforme judiciaire. Nous avons les tribunaux, les juridictions de l'ordre administratif, les juridictions de l'ordre judiciaire, mais jusqu'aujourd'hui, les juridictions de l'ordre administratif ne sont jamais installées. Et tout cela, c'est faute de moyens. Il faut éviter de s'engager dans des réformes tout en n'ayant pas en esprit la question de ressources pour la mise en œuvre de ces réformes. Quatrièmement, nous voulons attirer l'attention des pouvoirs publics sur ces réformes. Les réformes, généralement, visent les textes. On va modifier le texte, on va modifier le code pénal, on va modifier le code de procédure pénale. Mais il faut considérer que le problème qui se pose dans notre pays, c'est le problème de l'homme congolais. Est-ce que on va intégrer les réformes qui promeuvent l'éthique et les valeurs sociales? Et ça aussi, c'est fondamental. Cinquièmement, nous voulons que les réformes touchent la véritable maladie, le véritable fléau qui gangrène le secteur judiciaire. Et pour nous, nous estimons qu'il y a deux grands fléaux. Le premier fléau, c'est la corruption. Il faut que les réformes soient canalisées, thématisées autour de l'éradication, de la réduction sensible de la corruption, parce que c'est un mal délétère aux effets multiples qui caractérise le sous-développement de notre pays. Et nous envisageons des réformes en termes du renforcement de la répression des infractions de la corruption et des infractions assimilées. Guy Maté, vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, les peines prévues, la servitude pénale va de 6 mois à 2 ans. Et les amendes de 50 000 à 200 000. Mais la peine est faible, il faut la renforcer compte tenu du mal que cause la corruption dans notre pays. Il existe encore des obstacles juridiques en termes d'immunité qui fragilisent la répression. Donc tout ça, il faut qu'on mette ça en compte et aussi l'intégration des nouvelles technologies dans les procédures d'enquête et d'investigation. Il y a aussi quelque chose pour terminer. La deuxième maladie, c'est la gouvernance judiciaire déficitaire en termes d'amélioration des conditions de vie et des conditions de travail des magistrats. Je pense qu'il faut que ces réformes soient canalisées orienté vers ces deux mots, ces deux fléaux qui gangrènent l'état de droit. Enfin, le but même, l'objectif de ces réformes, nous estimons et nous souhaitons que ces réformes aient pour objectif d'améliorer l'efficacité administrative, de renforcer la démocratie et l'état de droit, d'assurer la promotion des droits humains, d'accroître la performance et surtout la réactivité des pouvoirs publics. Et enfin, ces réformes doivent assurer la participation citoyenne accrue. Voilà pourquoi nous avons voulu proposer à votre belle émission cette problématique des réformes judiciaires.
Merci, Madame Gaëlle Kibungu. Quelle pourrait être la marge des manœuvres du ministre de la Justice dans sa politique de réforme quand on sait que c'est une politique qui semble n'est pas arranger beaucoup de gens?
Ben, on voit bien que ça dérange. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'un ministre ou qu'un acteur du secteur essaye d'engager des réformes. Donc, ça prouve que le mal est profond. Démanteler un système, ce n'est pas facile. Si on l'est absorbé, si on l'est éjecté, il faudrait faire des réformes de l'intérieur et de l'extérieur. Et comme l'a dit mon prédécesseur, ça doit être une opération inclusive. Il faut au maximum pouvoir emmener vers vous les personnes intéressées pour arriver à un résultat optimal. Et comme il a dit aussi, ça devrait passer par une sensibilisation, vraiment une bonne sensibilisation, une communication sur ce qui est fait. On a l'habitude, on a pris l'habitude de faire des réformes un peu émotionnelles, sur mesure, des réformes punitives, des réformes coup de pub. Nous espérons que le ministre est bien engagé dans une réforme pérenne, parce qu'il faut que ça profite à tout le monde, que ce soit fait sur base des principes et de l'équité. Il faudrait, pour ce faire aussi, se pencher sur les vrais problèmes. Aujourd'hui, la justice aujourd'hui travaille dans des conditions inacceptables. Tous les bureaux sont pratiquement, c'est vraiment des lieux. C'est normal qu'en fait, que ces magistrats, que tous ces procureurs tombent un peu dans cette corruption, dans cette concussion, parce que ils sont mis dans des conditions parfois misérables. Il y a un pléthore d'abord. C'est vrai qu'on dit qu'il n'y en a pas assez, hein, parce que des fois, dans l'arrière-pays, il est difficile d'accéder à la justice parce qu'il n'y a pas assez de personnel sur place disponible, etc. Mais dans quelles conditions ils travaillent? C'est déjà un problème. Il faut penser modernisation, il faut penser amélioration de leur niveau social, de leur rémunération, etc. Donc c'est vraiment important de pouvoir mettre l'individu au centre de cette réforme, parce que je me dis, sans mettre l'individu au centre de la réforme, on peut en faire autant qu'on veut, ça ne marchera pas. Donc il faut voir tous les paramètres qui entourent la situation même des intéressés du système judiciaire et puis de ceux qui vont justement être bénéficiaires de ces réformes du point de vue de l'extérieur. Donc aujourd'hui, les grandes cibles sont vraiment cette corruption, cette confusion, toujours au rendez-vous, le clientélisme, l'instrumentalisation de la justice. Il y a toujours dans ce pays, on est en train de faire des efforts considérables quand même pour arriver à un état de droit. Il y a des personnalités qui pensent encore qu'elles sont au-dessus de la loi. Non, nul est au-dessus de la loi, donc il faudrait vraiment mettre un accent dans cette réforme sur la lutte contre l'impunité. Mettre vraiment les mesures en place, prendre tous les contours possibles pour que ça puisse devenir une réalité. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions exemplaires et équitables, on continuera dans ce système qui est entretenu à dessein. Il faudrait vraiment qu'aujourd'hui, nous puissions mettre un accent dessus. C'est d'abord l'homme, la réforme de l'homme, qui doit être justement, pour être à mesure de rendre des jugements de valeur, il faut qu'il soit mis dans les conditions qu'il faut, et il faudrait qu'il y ait une lutte contre l'impunité qui soit un exemple pour tout le monde, et je crois que même la population qui voit de dehors va accompagner et va adhérer à cette démarche.
Merci, professeur Pierre Virgence. Comment vous entrevoyez les processus de la mise en œuvre de cette politique de réforme judiciaire en RDC?
Bien, les interlocuteurs précédents, mes co-débattants, ont déjà évoqué la question d'une certaine manière. Je pense qu'une des conditions pour que ça fonctionne, c'est que les magistrats et le personnel de l'appareil judiciaire reçoivent régulièrement un salaire décent, de manière à ce qu'ils ne soient plus dépendants, en fait, de la corruption pour juger. Et donc, effectivement, on sait que si un salaire décent est assuré de façon régulière, eh bien, les gens n'ont plus besoin, parce que pour le moment, effectivement, ils ont besoin que les plaignants payent pour que la justice soit rendue. Et donc, ce n'est évidemment pas une justice équitable, c'est une justice au plus offrant. Et donc, effectivement, si on réussit à sortir un budget régulier pour payer les magistrats, on pourra alors impulser une politique de lutte anticorruption et de nomination objective qui sera effectivement suivie d'effet. Mais s'il n'y a pas un budget, comme l'ont déjà dit mes interlocuteurs précédents, ben voilà, effectivement, ben il y aura un vrai problème de mise en application. Et voilà, donc ça c'est vraiment la question de savoir si l'État congolais veut se donner les moyens, je dirais, de devenir crédible aux yeux de sa propre population, et donc effectivement, c'est l'État congolais qui prend en main les décisions d'utilisation de l'argent public, et on peut espérer que cette réforme puisse fonctionner, mais les conditions dans lesquelles ça se fait, ben voilà, le premier intervenant a bien expliqué que ça posait un vrai problème.
Merci, merci. On prend une petite pause en écoutant les Kelamwazi de Tchalamwana, et on revient juste après.
Oui, Kaladin Kananawa Kwatakumokosu. Kabuya.
c'est Lekela Mwadi de Tchalamwana. Lekela Mwadi qui signifie ne pleure pas. Cette composition de Tchalamwana sous la direction artistique du Malien Bonkana Maïga. Tchalamwana nous a quittés le 10 décembre 2022 à Kinshasa à 64 ans. Paix à son âme. Je rappelle que nous avons dans cette émission Madame Gaëlle Kibungu, elle est journaliste politique à Univers TV, une télévision qui émet de Kinshasa. Maître Dominique Kambala, membre de la société civile du Kasaï Central, est ancien bâtonnier du barreau de cette province. Il est rapporteur de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation dans cette même province. Il est également directeur général de l'ONGD dénommée Société Congolaise pour l'État des Droits. Et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, professeur Pierre Virgence, il est politologue et professeur dans les Université de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, se penche depuis quelques semaines à la mise en pratique de la politique du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour lutter contre la vie chère en RDC. À cet effet, une batterie de mesures fiscales ont été annoncées touchant 9 produits alimentaires de première nécessité pour les ménages pour redonner le pouvoir d'achat aux revenus des Congolais. Dans un briefing de presse avec son collègue de la communication et médias Patrick Mouyaya, Daniel Moukoko Samba avait cité les produits concernés par ces mesures fiscales, notamment le lait en poudre, le riz importé, l'huile végétale, la farine de maïs, la viande, les poissons salés, le sucre et autres. Madame Gaëlle Kibungu, vous avez opté, n'est-ce pas, pour ce sujet que vous formulez ainsi, la paupérisation de la population congolaise, une bombe à retardement pour la RDC. On vous écoute.
Voilà, j'ai choisi ce sujet qui me tient à cœur parce que on se rend bien compte que c'est une réalité. Au-delà de toutes les actions entreprises, comme j'ai dit, et réformes faites, tout doit être centré sur l'homme d'abord. Donc je salue à ce jour les différentes réformes qui sont faites et on appelle de tous nos voeux leur matérialisation et leurs effets au sein de la population. À ce jour, on peut citer le secteur de l'économie, comme vous l'avez dit, les secteurs de santé et de l'enseignement primaire notamment. Mais il faut dire que le mal il est très profond parce que depuis des décennies, la situation socio-économique des populations ne cesse de dégringoler, conséquence de gestion, conséquence d'un manque d'anticipation à tous les niveaux. Donc prenons déjà l'accroissement de la population qui est une problématique hein, qui doit être au centre des préoccupations parce que c'est de là que doivent venir tout ce qu'il y a comme batterie de mesures à mettre en place. Il faudrait comptabiliser cette population qui ne cesse de s'accroître. Donc les problèmes que l'on connaît aujourd'hui dans 5, dans 10 ans seront davantage plus importants si on y prend garde. Tous les citoyens ont droit, on ne cesse de le rappeler, à l'accès aux services sociaux de base, à une alimentation saine, de l'eau, de l'énergie, des soins de santé, l'instruction, l'emploi, le logement décent notamment. Il y a tellement de choses aujourd'hui dont le Congolais manque, qui ne sont pas à la portée en fait de tous les citoyens. Il y a eu vraiment une marge assez importante entre la classe du haut et celle du bas. La classe sociale devrait être en train de se constituer, mais aujourd'hui, le gap, il est vraiment important et ça se ressent au quotidien dans toutes les rues. Kinshasa en est le modèle même. C'est vrai que à l'intérieur du pays, on a souvent tendance à se centraliser à Kinshasa, mais à l'intérieur du pays, on se dit si dans la capitale, il y a une situation aussi dramatique, c'est que à l'intérieur du pays, ce n'est vraiment pas reluisant. Donc, je prendrai l'exemple de Kinshasa. J'ai fait un constat, c'est de plus en plus inquiétant quand même, il faut le dire, notamment avec ce phénomène Kuluna, qui est né comment? Justement par manque d'emploi de ces jeunes. Nous avons un pléthore de jeunes, nous avons un grand nombre de jeunes, Kinshasa c'est une ville jeune, avec des beaucoup qui sont sans emploi et parfois même sans instruction. Donc vous pouvez imaginer quelle est la réplique qu'ils peuvent donner à tous ceux qui les entourent. C'est une révolte, c'est un soulèvement social en fait. Et on devrait vraiment anticiper par des batteries de mesures très importantes pour pouvoir changer le cours des choses, hein, pouvoir faire des mutations dans les différents secteurs, notamment sécuritaires aussi, parce que on l'a vu, aujourd'hui on parle de phénomène Kuluna, mais depuis des années, depuis des décennies, on a vu le pillage dans les années 90, etc., où il y avait à la fois la population et les hommes en armes qui se sont adonnés à ce genre d'activité. Mais pourquoi? Quelle est la cause profonde aujourd'hui? C'est toujours un problème de revenir sur ces mauvais souvenirs qui sont quand même assez violents, mais c'est une réalité dont on devrait tenir compte. C'est vrai qu'on a vu des changements dans ce mode de faire, de révolte, etc. Mais on ne devrait pas s'attendre à mieux si on ne change pas la condition véritable du Congolais. Je parle ici des hommes en uniforme. On voit que, par exemple, plusieurs de nos villes sont très militarisées. Kinshasa, déjà ici, entre les camps militaires et les quartiers, la cité, etc., il n'y a plus tellement de différence. Les militaires sont partout, les hommes, les policiers sont partout. Et donc, à la moindre étincelle, c'est quand même la catastrophe à gérer. Je pense qu'il faut vraiment voir de ce côté-là. C'est un peu un cri du cœur que l'on lance pour pouvoir motiver, encourager les gouvernants à être vraiment regardants sur leur politique et à s'engager véritablement sur les réformes qu'ils annoncent, parce que la situation sociale, c'est le déclencheur de beaucoup de choses. Donc, on devrait vraiment mettre un accent particulier là-dessus. Autant chez les civils, on parle aujourd'hui du secteur de renseignement, tout est à terre, tout est à réformer, ça fait des décennies que le tissu social, il est complètement déchiré, et on devrait faire attention à cela pour ne pas retomber dans des situations de violence, parce que c'est difficile aujourd'hui, ceux qui vont payer le prix, c'est ceux qui ont un minimum. Ils sont peut-être pas riches, c'est peut-être pas eux qui sont à la gestion de la chose publique, mais le jour où il y a une révolte sociale et un mouvement social, ce sont des gens, des citoyens lambda qui peuvent payer le prix. Parce que vous passez dans la rue, vous avez une voiture, vous avez une estime que vous allez peut-être vous rendez à votre travail chaque matin, alors qu'autour de vous, vous êtes entouré par des chômeurs sans logement décent, sans un pain quotidien. C'est quand même compliqué. La situation devient quand même assez lourde, assez étouffante. On dit aujourd'hui du Chinois notamment qu'il est devenu assez agressif, assez aigri, mais je crois que c'est la conséquence quand même de tous ces traumas et on devrait faire attention à ça.
Merci professeur Pierre Virgence de Bruxelles, d'où vous intervenez. Et quelle est votre lecture de cette question des paupérisations de la majorité des Congolais?
Mais je crois que c'est une question centrale, effectivement, dans la gouvernance du Congo. Hein. On sait que l'insécurité sociale des populations les plus fragiles, ben, c'est aussi l'insécurité civile, je dirais, des plus riches, parce qu'effectivement, si vous fabriquez une ville où des gens très riches côtoient des gens très pauvres, forcément, vous allez provoquer, comme vient de le dire madame, ben, ça va provoquer des violences, ça va provoquer de la colère, ça va provoquer des réactions face à cette injustice flagrante. Et donc, effectivement, l'action de la sécurité sociale, c'est peut-être quelque chose qui est trop peu dit à propos des pays d'Europe, mais pas aux États-Unis, c'est que la sécurité sociale est un élément fondamental du soutien de ces sociétés, du fonctionnement de ces sociétés, de la solidarité. Et donc, effectivement, essayer de prendre en compte la partie de la population la plus pauvre n'est vraiment pas une tâche aisée, et c'est une tâche fondamentale. C'est vrai, enfin, madame a tout à fait raison d'insister sur cet aspect-là. C'est vraiment un élément primordial, je dirais, dans toute politique publique.
Merci, Maître Dominique Kambala. On va finir cette émission avec vous. Comment faire pour lutter de manière efficace contre cette pauvreté en RDC, là où on n'arrive toujours pas, n'est-ce pas, à combattre certains facteurs qui semblent être à la base de cette situation, notamment le caractère extraverti de l'économie du pays, les taux élevés, n'est-ce pas, des chômeurs, et aussi cette question qui est dénoncée par beaucoup d'experts depuis plusieurs années, l'écoulage des recettes publiques?
Très bien. Moi, je pense que d'abord, il faut rappeler que le Congolais a droit au développement. Le Congolais a droit à la distribution équitable de ressources nationales. Et comme les prédécesseurs l'ont dit, aujourd'hui, les ressources nationales, les richesses nationales ne profitent qu'à une poignée, à une oligarchie. Et que donc aujourd'hui, le problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut produire, baisser le prix, c'est une très bonne chose. Mais un pays immensément riche, est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Nous avons tout. Dieu nous a donné de la vision. Il nous a donné de... Non, il a donné la provision. Mais il suffit d'avoir une vision pour transformer nos ressources. Il est inadmissible que nous avons affaire à un pays qui ne produit rien. Non seulement cela, le Congolais ne bénéficie pas des opportunités de développement. Je suis dans le Kasaï. Vous savez que la situation de Kamuiransapu, c'est parce que le peuple kasaïen n'a pas bénéficié des opportunités de développement. Aujourd'hui, on vous parle, dans le Grand Kasaï, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de desserte en électricité, il n'y a pas de route, on ne cultive pas, il n'y a pas de politique agricole. Alors, comment voulez-vous que cela puisse changer? Donc, c'est une question cruciale. J'avais dit au départ qu'il y a la guerre des armes, mais il y a aussi la guerre provoquée par la paupérisation, provoquée par la misère inqualifiable, provoquée par la précarité des conditions de vie.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Gaëlle Kibungu, professeur Pierre Virgence et maître Dominique Kambala. Merci aussi à Jean-Claude Nsiala qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, Didier Davi, Diedoné Nyangasa et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe. Et à la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Ndaya. Ndaya, cette composition d'un poudi Deka, c'est bassiste de l'orchestre Ok Jazz qui avait imité la voix d'une femme dans la chanson Mamou. On écoute donc Ndaya de Deka et on se retrouve le samedi prochain.
Mi cuela, mi jacapo, mamá, su gran mundo cuela.
Uno que mi cuela, cuando mi
Yeah.